Pression, dépression.
L'émission qui fait mousser les émotions.
Tous les mardis de 8h à 8h30
sur Radio Larzac. Bonjour, il est 8h sur Radio Larzac. Bienvenue à tous. Autour de la table, Amélie, ouais, et Franck.
Bonjour, bonjour.
Salut.
Ça va ?
Oui,
ouais,
ça va
très
bien.
C'est une belle journée qui commence.
Nicolas est avec nous.
Salut.
En ce début du mois de mai, nous allons vous parler aujourd'hui de la transmission. Alors la transmission, bah, en fait, on l'a chacun interprété à notre manière, comment on allait transmettre de génération en génération ou pas. On va voir comment le psy va nous en parler aujourd'hui. Et puis Amélie va l'aborder au travers d'une BD.
Ouais, pour commencer. Puis après, vous verrez.
Ok, surprise.
Toujours de la playlist musicale, bien sûr, dans notre émission, avec, pour démarrer, un titre de Balavoine, qui n'a pas été un titre qui a été très très connu, et qui a été repris dans un album qui s'appelle Hommage, qui a été fait suite au décès de Balavoine, où différents chanteurs ont repris des chansons, et c'est Cabrel qui s'y est collé sur celle-ci, ça s'appelle Mon Angèle.
Qu'elle prenne sa bécane et qu'elle sorte de chez elle, qu'elle laisse tomber son feuilleton pour me donner sur ses jeux rebelles une explication. Qu'il faut que je comprenne qu'ils ont forcément leur raison. Ils veulent savoir vers quoi on les entraîne et qui ils sont. C'est normal que ça leur pose un problème vu que personne ne leur répond. Angèle me dit qu'il faut que je comprenne leur réaction.
L'écho d'Amélie. un film, un livre résonne sur nous.
Antoine, Pierrot et Mimile sont trois amis de toujours. Ils sont vieux et ils ont en eux un passé à faire ressurgir, des histoires à régler, et ils ont la connerie. Ben, je veux dire la bonne connerie, celle qui fait qu'on rit, celle qui fait qu'on se dépasse, celle qui fait qu'on avance, celle qui fait qu'on vieillit, certes, mais qu'on ne meurt pas. Du moins pas tout de suite, pas encore. Antoine, Pierrot et Mimile, ce sont trois des personnages de la BD « Les vieux fourneaux » de Paul Coët et Wilfried Lupano. Cette BD, pour moi, c'est le summum, avec ces personnages au perché qui avancent comme ils peuvent dans leur vie foutraque. Un autre personnage vient compléter ce trio. C'est Sophie, la trentaine. Sophie, c'est la petite fille d'Antoine. Enceinte jusqu'aux dents, célibataire, marionnettiste, elle vit dans une vieille bicoque au toit percé. Et si Sophie apprend de son grand-père et de ses amis, il se trouve que ces vieux bonshommes apprennent beaucoup de Sophie. Je vous lis juste un petit extrait d'un dialogue. Vous êtes inconséquent, rétrograde, bigot. Vous avez sacrifié la planète, affamé le tiers-monde. En 80 ans, vous avez fait disparaître la quasi-totalité des espèces vivantes. Vous avez épuisé les ressources, bouffé tous les poissons. Il y a 50 milliards de poulets élevés en batterie chaque année dans le monde et les gens crèvent de faim. Historiquement, vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc ça, c'est Sophie qui parle à son papy, et puis à ses amis, et puis à d'autres personnes du troisième âge. Oui, parce que en fait, ces trois messieurs, ils sont tant bien que mal dans la transmission. Dans le sens où ils ne lâchent pas vraiment leurs objectifs et leurs enjeux de vie. Enfin, au début de l'histoire, ils sont un peu enlisés dans leur passé. Têtus comme pas possible, ils trouvent la vigueur nécessaire pour faire des centaines de kilomètres et aller régler leurs histoires. Et bien sûr, ils n'auront pas fini d'apprendre sur eux-mêmes et sur les autres. Les vieux fourneaux, c'est trois tomes, trois BD à lire, à regarder, dans les moindres détails, car les dessins sont très riches, les personnages, leurs expressions et les décors. Chaque lieu est minutieusement détaillé, précisé, pour nous plonger dans les univers où évoluent ces personnages. La maison d'édition, c'est Dargo, et maintenant j'attends le tome 4. Les vieux fourneaux, c'est donc l'image du vieux, du grand-parent, celui avec qui on a envie de discuter, celui qui a bourlingué, celui qui a un sacré caractère et une histoire à raconter. Celui qui a des choses à apprendre. Ce vieux qui a des choses à transmettre. Quand on s'est dit qu'on parlerait de la transmission, l'image que j'ai eue est celle de ce vieux, de ce grand-parent. D'où mon envie de parler de cette BD. Et malgré moi, mes pensées ont fait un pont entre les personnages de cette BD et ma grand-mère. Le caractère bien trempé, les choses à raconter, la complicité, tous ces trucs chouettes que peut avoir un grand-parent. Alors si tous les mardis matins, je peux vous parler de films et de bouquins, c'est parce que j'ai grandi avec des personnes qui m'ont transmis ce goût de la lecture et du cinéma. Parmi ces personnes, il y a ma grand-mère. Au milieu des années 90, j'ai commencé un rituel mensuel. Ma grand-mère avait Canal+, elle avait le décodeur, et en plus elle avait un magnétoscope. Chaque mois, je venais faire ma liste des films enregistrés. En général, on était sur une moyenne de 4 ou 5 films par mois, sans compter ceux que j'allais voir au cinéma. Elle, mamie, elle y allait au moins 3 fois par semaine au cinéma. On voyait un peu de tout, du blockbuster au film d'auteur, et on en parlait toutes les deux. Elle m'emmenait voir des films pendant les vacances scolaires. On échangeait, on critiquait, on parlait interprétation, comédien. Fallait l'entendre avec sa gouaille Titi Parigot s'agacer des manières de Fanny Ardant ou s'émouvoir du charme blond de Robert Redford. Elle aimait tout, les vieux films comme les récents. Enfin, je pense qu'elle avait quand même la nostalgie des vieux films, parce qu'elle me racontait que quand elle était petite, dans les années 30, elle allait au cinéma tous les jeudis. C'était le jeudi qu'on n'allait pas à l'école et pas le mercredi. Parfois, elle enchaînait 2 séances d'affilée. Elle me racontait que dès qu'un film sortait, elle allait le voir. Même pendant la guerre et l'occupation. Elle avait un peu du mal avec certains films français dans lesquels les acteurs n'articulent pas assez, selon elle. Je parle des films des années 90-2000. Elle râlait. Elle disait « Bah maintenant, c'est la mode de chuchoter et de jouer comme si on avait de la purée dans la bouche. » Moi, je lui disais « Mais c'est pour la justesse du jeu, mamie. Bah, »« Pour la justesse, tu parles, il n'était pas juste, Pierre Brasseur et Arletty. »« Bah si, et on les comprenait. » »« Ah bah, Pierre Brasseur et Arletty. » Justement. Un jour, ma grand-mère m'a raconté cet après-midi de mars 1945. Il faisait encore froid, il avait neigé à Paris, la France était fatiguée. Depuis plusieurs semaines, on entendait parler de ce très long film d'époque tourné pendant l'occupation, malgré bien des difficultés de tournage. C'est un film de star à l'époque. Marcel Carné en réalisateur, Jacques Prévert en scénariste et Arletty, Pierre Brasseur, Jean-Louis Barrault et j'en passe, en acteur. Ma grand-mère juive hongroise avait réussi à grandir, devenir adulte et rencontrer l'amour de sa vie pendant la guerre. Et ce jour-là, l'espoir des jours meilleurs commençait à émerger et ce film, il fallait le voir à tout prix. Elle a fait la queue des heures, les pieds dans la neige, pour être sûre d'avoir une place dans la salle de cinéma. Et elle a eu sa place de cinéma. Et elle a découvert, émerveillé ce si beau film. Elle avait 19 ans. Quand ma grand-mère m'a raconté cette histoire, 56 ans s'étaient écoulés depuis ce jour. J'avais 19 ans aussi, et c'est avec le même émerveillement que j'ai découvert Les Enfants du Paradis.
Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle, et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
C'est drôle, on dirait que vous avez couru.
Oui, après vous.
Après moi? Et vous venez à ma rencontre?
Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors?
Alors?
Alors comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser. Et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant je ne vous quitte plus. Où allons-nous?
C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien.
Mais c'est peut-être le même.
Non.
Oh, pourquoi?
Parce que j'ai rendez-vous.
Au rendez-vous? Destin tragique. Voilà seulement 2 minutes que nous vivons ensemble et vous voulez déjà me quitter. Oh, et me quitter pour quoi? Pour qui? Pour un autre, naturellement. Et vous l'aimez, hein, cet autre?
Oh, moi, j'aime tout le monde.
Eh bien, voilà qui tombe à merveille. Je ne suis pas jaloux. Mais lui, l'autre, il l'est, hein, jaloux.
Est-ce que vous en savez?
Oh, ils le sont tous, sauf moi. Mais n'en parlons plus. Nous pensons plutôt à nous qui avons tant de choses à nous dire.
Vraiment?
Oui, vraiment. D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre?
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors?
Alors, au revoir, Frédéric.
Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laisser tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard.
Oh, Paris est grand, vous savez.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Voilà, c'était un extrait des Enfants du Paradis, film de Marcel Carné, sorti en 1945.
Merci beaucoup, Amélie.
Oublie le son, là, et ta musique tout le temps, tes problèmes et tes choix, elle me dit, gentiment là au fond de moi, j'ai un plus gros défi, un truc où faudra pas, non pas, que tu te défines. Oublie le son, là, et ta musique tout le temps, tes problèmes et tes choix, elle me dit, gentiment là au fond de moi, j'ai le résultat de nous deux, un fruit qui sereinement nous fera devenir vieux. Un à nous, je sais, on l'avait dit souvent, et je l'avais inventé mille fois en te regardant. Alors maintenant, maintenant que c'est bientôt et que c'est sûr, tu vois, 9 mois ce sera pas trop. Faudra qu'on soit comme on avait cru qu'on serait, à l'âge de critiquer sans savoir combien c'était compliqué. Faudra non pas en attendre trop, je sais, et pas non plus à l'inverse trop l'admirer. Faudra de bonnes colères mais justifier, jamais de mépris, pas se sentir obligé d'être populaire à tout prix. De bonne manière, mais de bonne manière c'est quoi? Regarde, tous les jours comme je jure, je sais pas déjà merci. Bonjour, c'est sûr, c'est indispensable, mais pour le reste, j'espère que dans son cartable, il y aura quelques fables à la morale béton. Le corbeau, le renard, ou ces histoires subtiles de petits poissons, oui. Oublie le son, là, et ta musique tout le temps, tes problèmes et tes choix, elle me dit, gentiment là au fond de moi, j'ai le résultat de nous deux, un fruit qui sereinement nous fera devenir vieux. Ils disent faudra que je me comprenne pour que tu te comprennes, puis que tu me comprennes pour qu'on s'apprenne. Ce qu'ils disent en gros c'est que faudra qu'on s'aime et qu'il y aura certainement des efforts, des mots qui saignent. Et je te dirai c'est pas grave quand c'est pas grave, et même quand ça l'est, c'est ça le vrai boulot. Couvrir et couver, faut se faire les soucis de son âge. pour grandir au rythme des pages qui se tournent, tu sais moi. On m'a fait répéter par cœur, y'a pas de mauvais élèves, y'a que de mauvais professeurs. Ce sera dans le soutien et pas dans le conflit. Putain, mais pourquoi je suis persuadé que tu seras une fille? Oublie le son, l'âme et ta musique tout le temps. Tes problèmes et tes choix, elle me dit gentiment là au fond de moi. J'ai un plus gros défi, un truc où faudra pas, non pas que tu te défiles. Oublie le son, l'âme et ta musique tout le temps. Tes problèmes et tes choix, elle me dit gentiment là au fond de moi. J'ai le résultat de nous deux, un fric qui sereinement nous fera devenir vieux. C'est pas vrai, et je vais pas en avoir de bébé, mais je me laisse souvent divaguer. Ça veut dire que t'y crois en l'avenir, que tu le vois, et le pire, oui, le pire, c'est que ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que ça voudrait dire que tu m'en as fait un, tu m'en as fait un, que tu m'en as fait un, que tu m'en as fait un. Oui, non, mais ça me fait du bien, ça me fait du bien parce que. Et ça voudrait dire que tu m'en as fait un, que tu m'en as fait un, que tu m'en as fait un.
Et le psy, qu'est-ce qu'il en dit ?
Un vaste programme. Alors surtout dans une période où chacun essaye un peu de transmettre sa propre vérité, sa propre vision du monde, ou ses propres vérités pour vivre mieux, soi-disant. La transmission. Comment se fait en 2017 la transmission des connaissances ? Est-elle la même aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans ? Alors au tout début de l'histoire, la transmission se réalisait uniquement au travers de notre bagage génétique. Hein, on donnait la moitié, chacun donnait la moitié de son bagage génétique. C'était la transmission. Et puis est apparu le langage. Et durant des milliers d'années, la transmission se faisait uniquement au travers du langage, de l'observation et de l'imitation. On imagine un peu cette image, un peu des sages autour du feu, dans une grotte, à transmettre la connaissance du monde et qui donneront naissance forcément aux mythes, aux légendes, aux dieux. Puis l'écriture est devenue un nouveau mode de transmission et a uniformisé un peu les connaissances, car accessible à tous. Et nous sommes ici, avec le langage et l'écriture, et donc la lecture, dans un mode de transmission, on va dire vertical. C'est-à-dire que nous avons un auteur, un moyen, un lecteur. Et encore aujourd'hui, ce mode de transmission verticale est le plus courant. Mais il place le lecteur parfois dans une position un peu passive d'apprentissage, en partant du principe, comme c'est écrit, c'est que c'est vrai. Et on a eu des best-sellers dans ce domaine-là. Hein, la Bible, le Coran, la Torah, Freud, des best-sellers. Et ce mode de transmission est forcément unilatéral, du haut vers le bas, en limitant au maximum aussi l'esprit critique. Sinon, c'est le bûcher. Et depuis quelques décennies, on voit s'opérer aussi un changement radical dans la transmission des connaissances, au travers de ce que l'on appelle aujourd'hui l'ère du numérique, où nous passons d'un mode de transmission vertical à un mode de transmission, on va dire, horizontal de l'information et de la connaissance. Vous pouvez avoir plusieurs auteurs, différents modes de transmission, le téléphone, écran, télé, ordinateur, presse, écrite, et de multiples lecteurs, simultanément, en même temps. Et forcément, ces nouveaux modes enrichissent la transmission de la connaissance. Il va permettre de développer l'esprit critique. Je pense par exemple à Wikipédia, par exemple, qui est un terrain d'approfondissement des connaissances où chacun peut, comment dire, trouvez-moi le mot.
Une encyclopédie participative.
Exactement, merci Nico. Exactement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce mode fait encore un peu peur. Hein, on manque de pratique, on manque de connaissances dans son apprentissage. Et on a encore trop tendance à développer une pensée un peu zapping par rapport à ce mode de communication numérique, hein, sur les nouveaux médias. On ne lit pas, on ne lit en général que les titres, et on les prend comme pour des vérités absolues. Mais Finalement, comme ça a pu être le cas il y a aussi 200 ans avec l'avènement du livre et des romans de manière, on va dire, industrielle. Et on avait à l'époque les mêmes craintes que beaucoup ont aujourd'hui sur les écrans et Internet. Et justement, je vais vous lire un texte d'un journaliste bien pensant de l'époque qui avait écrit ceci. « La fièvre de la lecture est une curiosité sans bornes qui vise à satisfaire momentanément son propre esprit oisif par le fruit de l'imagination ou en lisant les représentations d'autres auteurs dans leurs ouvrages. On ne lit pas pour s'enrichir de connaissances, mais on lit le vrai et le faux sans distinction, sans chercher à savoir, par pure curiosité. » Et c'était en 1821. Et en gros, on peut avoir un peu parfois les mêmes écrits et les mêmes références lorsque certains parlent des écrans.
Transmission des connaissances, c'est la manière dont tu es entré dans cette rubrique. Merci mon psy.
Merci à vous.
T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau, t'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Vu que t'es né que dans ma tête et que tu vis dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, depuis le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente, ne pas te voir j'en crève, mais je te sens dans mon ventre. Le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis. Au moins toute une semaine, ça sera dur, mais tant pis. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien, tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin. Mais je connais pas ta mère, je la cherche en vain. Je connais que la misère d'être tout seul sur le chemin. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, dans un coin de ma tête, y a déjà ton trousseau. Un jean, une mobilette, une paire de Santiago. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai des gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu laveras pas les pognes avant de venir à table. Et tu me traiteras d'ivrogne quand je piquerai ton cartable. Je t'apprendrai mes chansons, tu les trouveras débiles. T'auras peut-être bien raison, mais je serai vexé quand même. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, allez viens mon Pierrot, tu seras le chef de ma bande. Je te refilerai mon couteau, je t'apprendrai la truande. Allez viens mon copain, je t'ai trouvé une maman. Tous les trois ça sera bien, allez viens, je t'attends. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot,
chanson pour Pierrot, c'est Renaud, ça date pas tout jeune, hein, ça date de 1976. Toujours en chanson, cette fois on revient à quelque chose de plus actuel, c'est un titre du dernier album de Grand Corps Malade, ça s'appelle Pocahontas.
On a déjà eu les premiers mots, les premiers rires déclenchés, les premiers pas, les premières courses, les premiers genoux écorchés, les premières photos à quatre, les premières crises de cauchemar, les premières nuits pointillées, les premiers vices de couche-tard. On a encore les mémories et les parties de domino, les jouets qui font trop de musique et les matins trop matinaux, les journées de taf raccourcies, l'ultimatum de 16h30 et les promenades au parc, tous les jours où ça leur tente. On continue de s'émerveiller devant un dessin de cosmonaute ou un bonhomme pâte à modeler avec un bras plus grand que l'autre. On continue de vouloir filmer tous ces moments insensés qui ne reviennent plus jamais dès lors que le film est lancé. On a eu les premiers hostos, les inquiétudes, les premières peurs, les premières grosses engueulades, les punitions à contre-cœur, les premiers cadeaux débiles avec leur nom sur leur tasse, les siestes d'un œil sur le canapé en regardant Pocahontas. J'attends sans impatience les premiers devoirs à la maison, les premiers stress de contrôle, les boules au ventre à l'horizon, les premiers mots dans le carnet pour les tarés quand ils s'amusent, les premières mauvaises notes pour les carrés de l'hypoténuse. On redoute un peu quand même le cartable de 20 kilos, cahier à spirale, intercalaire, trousse qui déborde de stylo. Et puis aura le premier portable, les premières booms, première soirée, les premières peines de cœur, premier encart un peu foiré. Ce sera un peu le moment de toutes les grandes premières fois, les premières cuites, les premières nuits qu'on ne nous racontera pas. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie on deviendra de plus en plus spectateur. Il y aura la première fois moins de 5 fautes au code de la route, qui leur permettra de s'éloigner encore plus vite. Et puis sans doute suivra leur premier appart avec une Pocahontas bien élancée. Ils reviendront vide de leur chambre, ça j'ose même pas y penser. Il nous restera ça, je l'espère, ce sentiment essentiel, de les avoir bien préparés à cet immense bordel. Il nous restera ça, j'en suis sûr, cette indicible joie, de les voir courageux, bien épanouis dans leur choix. Il nous restera une maison avec une ou deux chambres en trop, retrouvant le statut de jeune couple en perdant suite par en pro. Il nous restera à regarder devant en appréciant ce qu'il y a derrière, prendre plein de photos de demain pour compléter celles d'hier. Et puis les chambres en trop seront à nouveau amochées par la nouvelle génération des premiers genoux écorchés. Le cycle jouera son rôle implacable et fatidique, et on retrouvera des jouets modernes qui font toujours trop de musique. Au milieu des nouveaux cris, on se dira qu'on a réussi à fabriquer ce manteau qui nous protège la vie. Ce confort impalpable, ce tremplin, cette béquille, ce miracle anodin, on a fait une famille. Enfants et la télé juste en face, je me vois bien faire une bonne sieste, pourvu que ce soit Pocahontas.
Il est bientôt 8h30, vous êtes sur les ondes de Radio Larzac. Pression des pressions se termine. Aujourd'hui, on vous a parlé de la transmission. Mmh. Merci Franck.
Merci à vous.
Merci Amélie.
Ben, merci à vous.
Vous retrouvez toutes les indications aussi bien sur la BD dont nous a parlé Amélie, sur les différents titres qu'on a passés aujourd'hui dans notre émission, ou même l'extrait du texte dont Franck nous a lu une partie. Vous la retrouverez sur le site Facebook de l'émission Pression des Pressions. Un grand merci à toute l'équipe de Radio Larzac et plus particulièrement à Nicolas qui est aux commandes aujourd'hui.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
On se retrouve la semaine prochaine.
Allez.
Allez, 8h, rendez-vous le 9 mai pour écouter Pression des Pressions. Salut à tous.
À bientôt.
Salut.
Bonne semaine.